Ce 10-10 vous est proposé par le musée Parcelle 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Plongez-vous dans une expérience inédite au cœur d'un lieu unique et vivant où l'art urbain se crée, se transforme et se transmet. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes, librairie. Vous avez rendez-vous au musée Parcelle 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.
Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Radio FM+. Dans le 10-10, nous sommes le mercredi 18 février, il est exactement 10h10. Aujourd'hui, nous allons parler d'optimisme et d'engagement dans tous les domaines de la vie, privée, publique, économique, culturelle, sociale. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Florian Mancione, que nous retrouvons aujourd'hui comme délégué héros de la Ligue des Optimistes de France. Florian, merci d'être avec nous ce matin.
Merci Nathalie de m'inviter.
Et oui, parce qu'aujourd'hui, vous allez nous énumérer un peu, nous faire un inventaire à l'après-verre de toutes vos activités. Mais c'est donc bien en tant que délégué héros de la Ligue des Optimistes de France qu'on vous reçoit. Et pour mieux vous connaître, Florian, je vais vous poser quelques questions. Donc, vous êtes connu comme cabinet conseil, comment on appelle ça ? Cabinet RH, c'est ça ?
Cabinet conseil en RH, oui, en ressources humaines.
Comment elle vous est arrivée, cette passion pour les RH, pour les ressources humaines, pour l'être humain en général, hein ? Mais elle est arrivée quand et comment ?
Elle est arrivée quand j'étais cadre commercial chez Burux, une grosse entreprise d'informatique. C'était le numéro 2 d'informatique derrière IBM à l'époque. Et j'étais passionné par la formation, parce que les formateurs qui nous formaient étaient tous des ingénieurs commerciaux comme moi. Et je trouvais très très bien d'avoir une évolution de carrière en passant par le service formation. Et ça m'a passionné, enseigner des choses qui est le quotidien, qui est notre métier en fait, hein, auprès de gens qui allaient l'utiliser de suite. C'était vraiment une expérience formidable. Et ce côté formation, je l'ai utilisé par la suite tout le temps.
Et c'était novateur, parce que je pense que quand vous avez commencé, bon, sans dire votre âge exactement, mais bon, vous avez 10 que moi, alors, 10 de plus. C'était pas encore très courant, justement, d'avoir cette approche-là de l'entreprise, du salarié.
La loi sur la formation permanente date de 1972. Hein, voilà, donc moi j'écris mon cabinet
en
76. Voilà, j'écris mon cabinet en 76, donc c'était vraiment le grand boom, en fait. Hein, et donc, je me suis intéressé aux ressources humaines, avec la formation au départ, mais après beaucoup de recrutement, de conseils en recrutement, d'outplacement, de bilan de compétences, d'audit humain et organisationnel.
C'est un métier aussi qui vous a permis, enfin, vous êtes friand de rencontres, hein, moi, depuis, ça fait 7 ans qu'on se connaît maintenant, Florian. Et voilà, c'est toujours la rencontre, la connaissance, l'émerveillement aussi devant l'autre que vous avez, ça vous a porté pendant toute votre carrière ?
Tout le temps. Tout le temps, parce que je me bonifie au contact des autres. En tant que conseil en recrutement, ben on se bonifie quand on rencontre des clients, des chefs d'entreprise, qui nous racontent leur parcours, leur activité. Et puis, on se nourrit plutôt avec les candidats, qui eux nous parlent pareil de leur formation, de leur expérience, de leurs envies et de leur secteur d'activité. Donc, j'ai appris beaucoup de choses au contact de mes clients et de mes candidats.
D'ailleurs, il y a certains formateurs qui sont devenus des amis.
Oui, bien sûr.
Depuis 1976. Il y a aussi un livre, d'ailleurs, vous avez écrit plus de 30 livres, 300 articles, vous écrivez régulièrement des petits papiers dans la Gazette. Vous avez d'ailleurs, on peut en parler là, une rencontre à la Gazette régulièrement.
Tout à fait.
Un café Cambacérès.
Chaque mois, pratiquement. Ouais. J'invite un
mercredi soir par mois, je crois, c'est ça, en milieu de mois à peu près. Toutes ces rencontres, toute cette énergie, je l'ai retrouvée, moi, le premier livre que j'ai lu de vous, c'est ça que je voulais vous dire. C'était le Management Epiphyte.
Oui.
Et moi, j'ai travaillé 40 ans dans une boîte où, si vous voulez, quand je suis rentrée en 78, il n'y avait aucun ni coaching, ni rien du tout, ni formation. Et je l'ai vu émerger dans les années 2000, hein, très fort dans cette boîte. Et justement, pas du tout dans cette philosophie que vous avez de management épiphyte, parce que le cabinet mentionne, ce n'est pas seulement du RH. Il y a une philosophie quand même derrière.
Bah, la philosophie, c'est de faire grandir les collaborateurs. Pour moi, le bon manager, le manager épiphyte, c'est celui qui fait grandir ses collaborateurs.
Il faut rappeler peut-être, pour ceux qui ne savent pas, l'épiphyte, c'est l'orchidée qui vit sur l'arbre, mais qui ne se nourrit pas de l'arbre.
Exactement. C'est, ça, voilà. C'est la grosse différence entre une plante épiphyte, hein, qui se développe sur un tronc sans lui piquer la sève, alors que la plante parasite, comme le gui par exemple, se développe sur un tronc en lui piquant la sève, en fait. Hein. Et j'ai pris cette image pour montrer que dans l'entreprise, on a intérêt à s'entourer de collaborateurs à fort potentiel que l'on va aider à grandir, à faire grandir. Voilà.
Ça a changé un petit peu ça du manager qui pensait qu'il fallait surtout pas faire s'il y avait quelqu'un qui était doué, il fallait presque le mettre de côté parce que ça pouvait nuire. Vous pensez que le management a grandi là-dessus un peu quand même?
Malheureusement, il y a des réflexes de conservation de la part de certains dirigeants qui ont peur que le numéro 2 ne les bouffe.
Enfin, ouais, c'est long, en fait, c'est voilà. Dommage. Et d'ailleurs, vous êtes tellement loin de ça qu'en définitive, vous avez deux filles, que c'est à vos gendres que vous avez confié la suite.
Exactement. C'est un acte de confiance.
Bah oui, c'est un grand acte de confiance.
Que j'ai aidé à grandir et qui maintenant commence à dépasser le maître, en fait. Hein, et c'est mon plus grand bonheur, en fait. Hein.
C'est chouette de voir ça, de voir justement...
Ah, bien sûr, bien sûr.
C'est même pas l'histoire que ça reste dans la famille. Bon, les familles, elles peuvent être élargies, mais le fait que ça soit justement que vos filles chéries aient choisi deux mecs qui puissent...
Bien sûr, bien sûr. Il faut pas des clones, hein, en fait. Hein. Il faut des
non, non, qui, voilà, oui, oui, c'est bien ça.
Leur spécificité, mes deux gens sont très différents. Ils ont deux personnalités
absolument
très différentes, deux formations très différentes, mais avec un même projet d'entreprise, un même relationnel... Un même amour des gens, en fait. Hein. Et c'est ce qui porte notre cabinet, en fait. Hein. Il faut aimer les gens.
Le cabinet, on le voit sur les échelles de la ville, il est toujours là-bas.
Oui, bien sûr.
Dans la liste des cabinets, il est quand même très haut placé. Il est international, même. Il n'est pas seulement national. Je crois qu'il est 20e ou 22, dans les premiers nationaux.
Et les Échos nous a décerné le prix de meilleur cabinet de France pour la seconde année consécutive. Voilà.
C'est une fierté pour vous d'avoir...
Bien sûr.
Alors, on connaît un peu votre histoire hein, de Tunisie, Sicile en Tunisie, vos voyages, hein, toute l'histoire des mentionnes.
Oui, oui. C'est mon père qui est né en Sicile, qui est allé ensuite en Tunisie. Voilà, je suis né à Carthage en Tunisie.
Mais voilà, tous ces voyages, en plus avec des amis, hein, vous parliez d'Atim, évidemment, mais toutes ces histoires d'amitié, tout ça, arrivé à 70 ans un petit peu passé, c'est une joie de savoir aussi que ce que vous avez créé, c'est vos gendres, enfin voilà, tout ça. C'est une fierté.
La vie est faite de rencontres, d'échanges. C'est très important. Moi, je prends toujours un aphorisme que j'aime bien, qui est celui-ci. Lorsque deux personnes échangent un produit, elles repartent toutes les deux avec un produit, chacun, chacune. Et mais lorsque deux personnes échangent une idée, un concept, elles repartent avec deux idées. Voilà. Et c'est ça l'intérêt de la vie, en fait. Hein,
et
c'est
en plus, ça, c'est ce que je ressens beaucoup quand je vous vois dans des événements. Vous pouvez aussi bien... vous avez le même regard sur quelqu'un qui n'a pas forcément ni un bagage universitaire, ni culturel. Enfin, vous avez ce regard d'intérêt pour qui que ce soit. J'ai l'impression que tout le monde vous intéresse, Florian mentionne.
Bien sûr. Mais ça veut dire également qu'on doit chercher dans l'autre et dans n'importe quelle situation ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Alors qu'il y en a un qui pointe du doigt les dysfonctionnements, les problèmes, en fait. Hein. Moi, j'essaie de trouver quelque chose de bien. Il y a toujours quelque chose de bien à trouver chez quelqu'un.
On va parler du club de la Ligue des Optimistes, que je ne dise pas, entre le guide, le club, c'est la Ligue des Optimistes. Mais avant, c'est une passion supplémentaire. Parce que si on fait un petit inventaire de ce que vous aimez faire, moi, je vous ai rencontré par Cambacérès, mais vous êtes aussi investi dans le prix de la Nouvelle. À un moment, hein, il y avait des prix de nouvelles
avec la RACT.
C'est quoi l'éventail de vos passions? Parce qu'à un moment, les journées ne font que 24 heures, monsieur mentionne.
La passion, c'est la vie associative. Voilà. J'adore la vie associative parce que je m'enrichis au contact des autres. Et j'aime bien prendre des responsabilités. Souvent, dans une association, je ne suis pas passif. Je ne suis pas un simple consommateur, en fait. Hein. J'essaye d'apporter quelque chose. Et plus on apporte, plus on reçoit. Hein. C'est paradoxal, mais c'est ça. Plus on apporte, plus on reçoit. Et donc, je m'investis beaucoup dans tout ce que je fais, dans les différentes associations. Alors, ça va des amis de la Sicile, aux amitiés...
D'ailleurs, vous trouve, à la Foire des Assos, vous y allez. Hein.
Ouais, bien sûr. je suis présent, je suis vice-président même des Amis de la Sicile, je fais partie du bureau des amitiés judéo-chrétiennes. Quand j'étais plus jeune, je faisais partie de la SOS Amitié. Oui, donc c'est très, très éclectique,
c'est très large.
On apprend beaucoup de choses.
Et alors, tout d'un coup, arrivent cette année les optimistes. Alors, comment ils sont arrivés, ces optimistes?
Alors, ils sont arrivés d'une très drôle de manière, en fait. Hein, parce que l'an dernier, donc le 1er septembre, il m'est arrivé une catastrophe, un véritable tsunami. Et un mois après, le hasard a fait que sur LinkedIn, je découvre la Ligue des Optimistes de France. Donc, je me suis intéressé à cette Ligue, j'ai vu qu'ils avaient un beau site internet. Donc, c'est une association qui a été créée il y a une quinzaine d'années par Eric Orsena, Jean Dormesson, Mathieu Ricard, des gens d'un excellent niveau, dont le but est de promouvoir l'optimisme. Et donc, créé il y a 15 ans, implanté en France entière, avec des délégués départementaux. Alors, je regarde et je vois qu'il n'y a personne sur les roues. Alors, j'envoie un mail à un vice-président. Je dis, c'est bien, mais il n'y a personne sur les roues. Et le gars, il m'appelle de suite. Et une heure après, j'étais le nouveau délégué. Voilà. Voilà. Donc, c'est très amusant.
La rencontre téléphonique a été chouette, Florian ?
La rencontre a été très, très bien, en fait. Hein. Et Christine, qui me regarde de haut, me dit, vas-y, Florian, ouais. Vas-y, investis-toi. Ça te correspond tout à fait, en fait. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
Avant de faire cette rencontre, donc en plus dans un moment extrêmement douloureux, vous avez un comportement, enfin un tempérament, pas un comportement, un tempérament plutôt optimiste dans la vie ?
Tout le temps. Mais depuis le début, en fait. Hein, mm-hmm. Et sans forcer, en fait. Hein, c'est dans ma nature, en fait. Mm-hmm. Hein, moi, j'ai une paire de lunettes avec des verres roses, en fait. Hein, donc, je vois Nathalie de manière un peu rosée. Vous êtes merveilleuse. Vous êtes merveilleuse, Nathalie, en fait. Hein, voilà. Donc, j'aime bien. Mais c'est un optimisme lucide.
Oui.
Hein, c'est pas un optimisme béat. Voilà, c'est pas du tout béat, en fait. Hein. C'est pas naïf, en fait. Hein. Je reste très, très lucide. Je sais faire la part des choses, en fait. Hein.
Surtout dans le monde dans lequel on vit, il faut quand même ça. Et en plus, quand on est un homme d'influence, excusez-moi, mais pour moi, vous êtes un homme d'influence, il faut savoir faire cette part des choses, parce qu'il y a des amitiés aussi, des fois. Voilà.
Oui, bien sûr. Vous savez, tout le monde prend la même image du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. Elle n'est pas bonne, cette image. Mm-hmm. Moi, je la condamne, cette image. Moi, quand je vois un verre avec du liquide dedans, je ne dis pas il est à moitié vide ou à moitié plein. Je dis, il a X centilitres de liquide. Voilà, c'est un fait. Il faut partir du fait. Et à partir de ce fait, ben on va voir les avantages, les inconvénients, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. En fait, comme dans toute situation, il y a du bien, il y a du moins bien. À charge à nous de l'analyser, de comprendre, d'en tirer une conclusion.
Cette ligue, elle intervient dans quoi ? Donc c'est plutôt une ligue qui a été créée par des intellectuels.
Tout à fait, tout à fait.
Et son domaine, ses ambitions de rayonnement, c'est quoi ?
C'est promouvoir l'optimisme. C'est aussi simple que ça, en fait. Hein. C'est-à-dire sortir de la vie morose, en fait. Mmh. Hein. Sortir des problèmes quotidiens, ne pas à chaque fois pointer le doigt sur les choses qui ne vont pas, les dysfonctionnements, mais plutôt s'intéresser à améliorer les contacts avec les autres grâce à ce regard positif que l'on peut porter sur les autres.
D'ailleurs, si vous êtes intéressé, il y a évidemment un site, hein, il suffit de taper Ligue des Optimistes, et puis il y a une newsletter si vous voulez aussi être régulièrement, avoir régulièrement des infos. Les membres se réunissent de temps en temps, il y a des congrès d'optimistes, immersions.
Bien sûr. Cette année, ça sera à Lyon. Oui, donc,
et vous en faites partie déjà.
Bien sûr.
Là, ça va être encore des nouvelles rencontres. Hein. Attention.
Des nouvelles responsabilités. Ah. Mais je me noie dans les responsabilités et dans les activités, en fait. Hein. Ça fait partie de mon ADN, en fait. Hein.
Le moyen, justement, de sortir de cette espèce de morosité en ce moment, de dire, OK, ça ne va pas bien en France, mais on est quand même la 7e puissance mondiale. Il y a encore des gens il y a encore des gens heureux en France. Hein. Voilà, il ne faut pas non plus... vous pensez qu'on en a réellement besoin ? Par exemple, vous qui êtes aussi un observateur de la vie sociale, politique, vous pensez qu'on... On est lourd aussi, nous, les Français, à tout le temps nous plaindre, ne jamais être... Il y a 10 millions de gens en dessous de la pauvreté, je ne l'ignore pas du tout, Florian. Hein. Mais il y a aussi des gens qui se plaignent tout le temps et qui n'ont pas vraiment spécialement de raison de se plaindre.
C'est vrai. Comment répondre à cette interrogation ? Je crois qu'il y a une démarche collective et puis il y a une démarche personnelle. Alors, c'est vrai qu'on pose souvent le problème sous la forme d'une décision collective et d'agir de manière collective. C'est bien, mais parfois ça nous échappe. Mm-hmm. Donc moi, je préfère dire, j'agis tout seul dans mon petit coin. Je suis le petit colibri. Et j'aime bien l'image du colibri, en fait. Hein. Je fais des choses. Par exemple, ce mois-ci, au Cercle Montpellier-Cambacérès, je fais intervenir Perla Danan, qui va nous parler de comment combattre l'antisémitisme. Bon, c'est un problème énorme, en fait. Hein.
Et pas simple.
C'est pas moi qui vais le résoudre, mais je participe en organisant une conférence débat sur ce thème-là. Je participe à comment combattre l'antisémitisme. Expliquer, comprendre, échanger. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que, voilà, de manière individuelle, on peut agir et on doit agir. Je crois qu'on ne doit pas rester de manière passive sur Terre, hein, dans la vie. On ne doit être qu'un spectateur, on doit être un acteur.
Voilà. Surtout que pour avoir passé l'après-midi de vendredi avec Perla, ce n'est pas simple non plus en ce moment. Elle a des je ne sais pas si elle en parlera, mais elle a des portes qui se ferment quand même en ce moment.
Bien sûr.
C'est vraiment douloureux pour une femme de contact aussi.
On a appelé cette conférence « Comment combattre l'antisémitisme ?» Mais moi, au fond de moi-même, vous savez comment je voulais l'appeler, ce titre-là ? Que faisons-nous pour combattre l'antisémitisme ? Parce qu'on est tous responsables. Voilà, on est tous responsables. Donc la morosité ambiante dont vous parlez, c'est vrai, elle existe. Mais qu'est-ce que je fais, moi, de manière individuelle, en fait, hein ? C'est le plus important.
Vous êtes très sensible aux médias, parce que le média n'arrange pas les choses non plus. Hein. Par exemple, les BFM, tout ça, vous écoutez ça en boucle ou pas tellement ?
Si, tous les jours. Je me nourris de ça, mais avec beaucoup de recul.
Une distanciation.
J'absorbe pas tout, en fait. Hein. Je suis très, très critique. Et je retire que ce qui m'intéresse, ce qui étaye mes idées, mes concepts. Voilà.
On va marquer notre première pause musicale, comme on le mentionne. Vous avez choisi pour nous Ne me quitte pas, et ceux qui vous aiment et qui vous connaissent savent pourquoi. On écoute tout de suite.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
Et vous êtes toujours sur Radio FM+, dans ce 10-10 du 18 février. Florian, un petit mot sur Ne me quitte pas, qui peut passer pour une chanson triste.
Ça peut sembler triste, mais ouais. En fait, c'est une chanson d'espoir. Voilà. Et c'est là où on voit ce qui représente l'optimisme pour un individu, en fait. Hein. C'est avoir une belle paire de lunettes et voir le côté positif dans chacune des situations.
Et de, me voir en rose, moi qui suis toujours en noir.
C'est le rebond, c'est la résilience, en fait. Hein, c'est ça.
Ça aussi, un thème de Cambacérès, si vous avez quelqu'un qui peut venir nous parler bien de la résilience, parce que maintenant c'est un peu à toutes les sauces la résilience, oui. entre le premier message de Cyrulnik, et puis ce que tout le monde en fait, et puis cette obligation de résilience, on a le droit aussi d'être deux fois en colère quand même.
Bien sûr.
En tant que délégué de l'Hérault, vous avez déjà organisé, Florian, deux conférences débats autour de l'optimisme. C'est-à-dire que vous avez pris le truc, ça y est, hein, vous y allez, vous organisez des débats, des rencontres. Comment se sont passées ces rencontres à la Gazette, d'ailleurs, chez nos amis de la Gazette?
Dans la foulée, j'ai organisé deux conférences débats. Donc la première conférence débat, donc, c'est avec Sandrine Musel, à qui j'ai proposé le thème suivant. Être optimiste, c'est bon pour la santé. Voilà, hein, c'est ce que disait Voltaire même à l'époque.
Oui, j'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé.
Voilà. Hein, donc, on a eu un succès fou, on était entre 80 et 100, en fait, hein, au Gazette Café, c'était remarquable, en fait. Hein, et puis Sandrine Musel s'exprime bien quand on la voit, elle est rayonnante, en fait. Hein, et derrière l'optimisme, il y a le rayonnement, en fait. Hein, donc, elle a un enthousiasme communicatif, en fait. Hein, donc, ça fait plaisir de l'écouter. Et ce qu'elle disait était très sensé. Et donc, on a fait les questions-réponses, c'était très, très bien. Et puis, un mois ou six semaines après, j'ai invité donc Cécile Neuville, à nous parler d'un thème aussi très intéressant. Un pessimiste peut-il devenir optimiste?
Alors Et alors?
Eh bien, une heure après, on a conclu, oui, bien sûr, en fait. Ouais. Hein. Mais ce n'est pas qu'une simple technique, en fait.
Hein. Non, bien sûr.
C'est un comportement, c'est une conception de voir les choses.
Il y a des fois des changements de paradigme, même, je pense.
Aussi.
Qui peuvent aider à voir la vie et les choses différemment.
Bien sûr. Hein. Mais je crois qu'il faut qu'on y voit son intérêt et qu'on y voit l'intérêt des autres dans l'optimisme, en fait. Hein, donc, il y a une notion de rayonnement, de confiance. Voilà.
Et donc, c'est un sujet qui intéresse beaucoup aussi. Il y avait autant de gens qui sont venus.
Bien sûr, tout le monde était très concerné, en fait.
De toute façon, les cafés Cambacérès venaient tôt. Moi, j'y suis allée à quelques-uns. Il y a toujours beaucoup de monde. J'ai notamment une avec votre, je crois qu'on peut le dire, avec Angélique, qui est votre nièce, qui parle très bien et d'une façon différente. Des arts divinatoires et des cartes et de l'astrologie, hein, voilà, et qui en plus accepte beaucoup, parce que moi l'astro je suis un peu comme vous, hein, je ne suis pas trop fan, mais elle accepte beaucoup le débat.
Bien sûr.
Donc vous avez la programmation de ça dans les Gazettes, hein, c'est donc le mercredi à peu près au milieu de mois. Hein,
tout à fait. Deux prochaines conférences, ça sera une sur optimisme et bonheur, voilà. Et l'autre, ce sera résilience et optimisme.
Et ben voilà. Donc ça, moi, résilience et optimisme, je pense que j'aurai récupéré mes jambes, donc je viendrai vous voir. Et puis, je voudrais qu'on prenne un peu de temps pour parler de... Voilà, parce que quand Florian mentionne pour un sujet, alors voilà, il adhère, il devient président, il n'a pas peur, il fait des conférences...
C'est mon côté humilité, en fait.
Ouais, très bien, voilà. je le connais.
Je vais être le plus humble des humbles, voilà, j'essaye.
C'est important. C'est un concours de nouvelles.
Voilà, alors figurez-vous que pendant plusieurs années, j'ai participé au concours de l'ARACT. L'ARACT, c'est l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, chaque année, il y a un concours qui concerne la vie au travail dans l'entreprise, en fait. Hein. Et donc, j'ai même eu une année un premier prix, j'étais très fier. Et puis, pendant plusieurs autres années, ma nouvelle a été sélectionnée pour figurer dans un livre qui rassemblait la trentaine de nouvelles du concours, en fait. Hein. Voilà. Donc, et comme cette année... C'était la dernière année du concours, où j'étais même président du jury. J'ai dit, c'est dommage d'arrêter ce principe du concours. Donc, je recrée avec Thierry Lefebvre, mon ami Thierry Lefebvre, qui lui aussi a été lauréat à deux reprises. L'an dernier, à deux reprises, il a été lauréat du concours. Et souvent, sa nouvelle figure dans le livret des nouvelles. Avec lui, donc, on a décidé de créer le concours des nouvelles optimistes. Voilà.
Et même, il a été, je crois que l'année dernière, il a gagné le concours organisé par Isabelle Guticelli, qui est pour la nuit de la lecture à Serramps. Je crois qu'il a gagné l'année dernière, Thierry. Et puis, il y avait aussi le concours des nouvelles siciliennes.
Oh, bien sûr.
Qui m'a permis de retrouver Chantal Clair, qui est une amie de jeunesse que j'avais perdue de vue depuis longtemps et qui a récompensé Pascal Battistelli, mais tant d'autres, voilà, et que vous remettiez pendant la comédie du livre. Ça, vous le continuez ou on ne peut pas tout faire quand même?
J'ai arrêté ça,
voilà,
en fait.
On ne peut pas tout faire.
Et donc, maintenant, je vais me spécialiser, entre guillemets, dans le domaine des nouvelles. Donc, concours de nouvelles, donc, qui a démarré le 1er février jusqu'au 31 mars.
Et alors, évidemment, la thématique, c'est l'optimisme.
Bien sûr. Donc, il faut qu'effectivement que la nouvelle transpire l'optimisme, nous explique pourquoi, en fait. Donc, c'est une vision positive des choses, en fait.
Comment vous faites appel à Tex? Qu'est-ce qui vous aide, justement, là-dessus? Donc, il y a la librairie Gibert, visiblement.
Monsieur la librairie Gibert, bien sûr, qui communique, puisque la librairie va récompenser les lauréats en offrant donc, des livres. On va avoir une couverture presse incessamment sous peu. Et moi, j'ai fait un emailing important. Je l'ai envoyé à 5000 exemplaires. Donc déjà, on a des personnes qui ont candidaté.
Voilà. Donc moi, avec mon carnet d'auteurs riches, je peux aussi partager.
Bien sûr.
Le jury, il est en cours d'élaboration.
Il est en cours d'élaboration. Du reste, ça nous ferait plaisir, Nathalie, si vous voulez.
Bien volontiers.
Si vous voulez en faire partie, voilà. Il nous faut donc des gens compétents. Et voilà.
Parce que la nouvelle, c'est important. Enfin, vous avez lu beaucoup à travers toutes ces expériences, la Sicile, le travail, etc. Mais moi, c'est un souci des fois pour moi, la nouvelle, parce que une très bonne nouvelle, pour moi, c'est quelque chose qui dit beaucoup de choses dans peu de mots. Il y a une économie de mots, de style.
Oui.
Alors qu'il y a des gens qui écrivent des nouvelles parce que ils n'ont pas plus que 20 pages à écrire. C'est difficile, la nouvelle, pour être un très bon novelliste, ce n'est pas évident.
Notre concours, la nouvelle, fait 4 pages, 5 pages.
Voilà, il y aura une borne. Voilà, c'est borné. Ouais. Voilà. Donc, le thème, c'est
l'optimisme
et donner de l'espoir. Il y a un cadre un nombre de caractères, un nombre de pages.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Tout ça, pour l'instant, il y aura un site sur lequel on pourra en savoir plus.
Ils peuvent m'écrire, Florian Mentionne. Tape Florian Mentionne
sur... Je mettrai le lien.
Et donc là, je leur donnerai tout.
Le jury, il est en cours d'élaboration et je viens de me mettre dans l'aventure. Et bien sûr, le concours est gratuit.
Bien sûr.
Et ouvert donc, depuis le 1er février jusqu'au 31 mars. Il est ouvert à tous ceux qui veulent y aller. Est-ce que vous prévoyez d'autres actions culturelles, justement, dans l'idée des optimistes?
Toujours les conférences. Mmh. Voilà, les conférences, c'est quand même le plus intéressant.
C'est-à-dire, petit à petit, les cafés Combat Cérès vont se déplacer vers le.
On va alterner. Ouais. On va alterner, en fait, par rapport au sujet.
Parce qu'il y a des sujets. Enfin, moi, je sais que. Un souvenir personnel, mais moi, je vous rencontre donc grâce à Hélène Mandrou. C'est Hélène qui nous a présenté une comédie du livre. Et. Après, vous m'emmenez découvrir la carrière des Lumières. Il y avait une rentrée avec Combat Cérès. Et le premier. Rendez-vous Combat Cérès, où je suis invitée, c'est une heure avec notre centenaire philosophe Edgar Morin.
Edgar Morin, oui, bien sûr.
Et y a une volonté quand même aussi dans toutes vos invitations, de donner à manger, quoi, avec des sujets, avec des spécialistes. Je me rappelle d'un très très beau par Dominique de la Perrière, je crois. Marie Curie, qui était passionnant. Voilà, quand vous proposez un sujet de réflexion, c'est un sujet vous faites venir des pointures, entre parenthèses. Vous voyez ce que je veux dire par
pointure? En principe, oui. Des gens de qualité, en fait, qui ont des choses à dire, en fait. Mais parfois, on a des conférenciers très simples, mais qui ont des messages très forts à faire passer.
C'est important, justement, parce que faut pas non plus être effaré. Le public de vos cafés Combat Cérès ou du Cercle, c'est des gens de tous milieux sociaux. Je veux dire, il n'y a pas non
bien
plus.
Sûr,
c'est pas un truc forcément réservé aux intellectuels. C'est quelque chose que vous voulez ouvert. Et encore plus avec les cafés d'ailleurs, qui sont dans un lieu public.
On aime bien avoir un côté éclectique dans nos interventions. Le mois dernier, j'ai fait intervenir Hélène Guérin, qui est historienne d'art, qui nous a parlé des Étrusques. C'était remarquable. Le mois précédent, j'ai fait venir un médecin nîmois qui nous a parlé de l'ADN et comment on utilise l'ADN pour résoudre certains meurtres. C'était passionnant.
C'est passionnant.
Un sujet très différent.
Et vous m'avez donné le plaisir et la chance de rencontrer Elric. Alors, je voudrais pas... comment...
Oui, je vois qu'il voulait dire.
Il va me tuer, Elric, qui fait partie...
Elric Irastorza.
Voilà, merci beaucoup.
Elric Irastorza.
Voilà. Alors, il arrive ici, il est toujours en plein bonhomie, c'est quelqu'un de très très sympa, et surtout, c'est quelqu'un qui s'occupe donc de l'Académie des sciences et des lettres de Montpellier. Et là aussi, il y a des très très belles références qui viennent parler, il y a un soin. C'est pas très très connu, il faut en parler, c'est des conférences libres à Rabelais, tous les premiers lundis du mois à 17h. Il y a toujours des thématiques très 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 intéressantes. La dernière fois, il est venu, il avait fait un cycle de conférences sur les femmes à Montpellier avec Madame Tisser, qui était la présidente.
Oui, Michel.
Michel. Mmh. Voilà, il y a plein d'endroits comme ça à Montpellier où on peut avoir quand même des conférences de haut niveau.
Et entre la salle Rabelais et la salle Pétrarque,
Rabelais, Pétrarque, évidemment nos amis du Gazette Café, qui en ce moment sont en pleine action pour devenir un SKIK, je vous le dis, si ça vous intéresse.
J'ai pris deux parts déjà.
Voilà. Et la radio, on a décidé hier d'en prendre une. Voilà.
J'ai pris deux parts. Comme j'ai deux filles, j'ai pris deux parts.
Ah bah c'est super. On va bientôt se quitter, Florian, il y a plein de choses. On s'est posé la question, est-ce qu'on fait une émission littéraire? Est-ce qu'on fait une émission? On s'est dit, on est optimiste parce qu'il y a des choses littéraires qui arrivent. Vous pouvez nous en parler un petit peu?
Ben, je vais sortir deux livres qui vont sortir dans les jours qui viennent. Le premier, c'est le plus important, c'est Le management selon Jaurès.
On imagine mal quand même.
Et ben, figurez-vous que j'ai interviewé Jaurès le 31 juillet 1914 au café-restaurant du Croissant. Deux heures avant son assassinat, en fait. Hein. Et donc, je lui ai posé des questions et grâce aux réponses formulé par un garçon qui s'appelle Thomas Valero. Thomas Valero, donc, a un doctorat d'histoire. Il a fait sa thèse sur Jaurès. Donc, quand je lui posais des questions, il me répondait comme ça, brûle pour point. C'était remarquable, en fait. Hein. Et grâce à ses réponses, j'ai pu synthétiser 7 piliers importants de management chez Jaurès. On l'imagine pas, Jaurès manager. Et pourtant,
non,
oui,
sûr,
on le connaît comme professeur, comme philosophe, comme homme politique. On le connaît pas comme manager. Eh ben, c'était un manager et un leader, surtout un leader.
Un leader, ouais.
Voilà.
Mais si, de toute façon, c'est votre façon d'aborder le management. Moi, j'ai donné quelques-uns de vos livres à ma fille qui est instite. Parce que je dirais que, évidemment, on ne va pas dire ça, mais on ne devrait pas le dire. Des choses qu'on ne devrait pas dire. Mais tenir une classe, c'est aussi manager, c'est aussi regarder l'autre. Le management, c'est un terme qui a été assez dévoyé quand même. C'est juste une attention à l'autre qu'on porte.
Oui, travailler ensemble une équipe, c'est pas facile en fait. Hein. Et là, il faut de la technique. Il faut un bon fond, mais il faut de la technique.
Il faut de la technique. Il y a des moments où ça aide la technique. Voilà, faut pas penser qu'on est...
Donc le prochain livre qui va sortir dans une semaine en fait, hein, puisque donc je vais faire un Gazette Café sur ce thème-là et un webinar sur ce thème-là avec Thomas Valero. Et puis je sors un autre livre avec Jean-Luc Cohen-Rimbaud qui s'appelle Le management selon les techniques théâtrales. Voilà, puisque Jean-Luc
a écrit deux livres là-dessus, Truc d'Arlequin, je ne me rappelle plus, je ne pourrais pas dire truc, mais il y a Arlequin dans le titre. Et puis, c'est pas du théâtre.
La vente, ce n'est pas du théâtre.
Ce n'est pas du cinéma, c'est du théâtre. Voilà,
exactement.
Voilà.
Puisque Jean-Luc est comédien et metteur en scène, en fait. Hein.
Et Jean-Luc, en plus, en ce moment, il faut aller voir son site parce que c'est aussi quelqu'un qui, on parlait de Perlac, c'est pas facile toujours pour lui en ce moment, au niveau de l'expression.
Voilà.
Donc, il va y avoir plein de rendez-vous.
Tout à fait.
On va se revoir plusieurs fois et souvent. C'est super, c'est toujours un très très bon moment, Florian Mancione, d'être avec vous. Et je sais que vous nous ouvrez beaucoup de portes et que vous êtes très généreux aussi avec vos contacts, avec les gens que vous connaissez, que c'est pas que pour vous, voilà. Vous avez aussi un goût pour le partage et ça, c'est une qualité humaine.
J'aime bien me définir comme un créateur de liens sociaux.
C'est réussi, Florian Mancione. Je confirme. On va se quitter avec quelques douces notes. C'est « It's What a Wonderful World » par Louis Armstrong. C'est un morceau...
Là, c'est purement optimiste.
Voilà, hein, qui va bien. Eh bien, je vous dis à demain pour un nouveau 10-10. Alors, je ne sais pas du tout quel sera l'invité demain. Et moi, je vous quitte un petit mois pour vous retrouver à partir du 15 mars. Je vais m'occuper un peu de moi et je vous retrouve à partir du 11 mars exactement avec Caroline Fabre-Rousseau en aéropage. Et je ne sais plus qui sera mon invité du mercredi 10, mais vous découvrirez. Restez tous les jours avec nous sur Radio FM+. Allez en savoir plus sur le site qui est tout beau, tout nouveau. Et puis, bien sûr, j'allais clôturer en oubliant de remercier le bel Olivier de nous avoir accompagnés avec Florian pour cette matinale. Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself,
Radio FM+.
Ce 10-10 vous était proposé par le musée Parcelle 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes, vous avez rendez-vous au musée Parcelle 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.